On est réunis pour une occasion un peu exceptionnelle, une soirée autour de la cuisine chinoise et surtout sichuanaise. Ce soir, au restaurant Le Bonheur du Palais avec les frères Chan. Et puis, cette soirée se fait autour de l'auteur d'un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces derniers temps, qui est La baguette et la fourchette, que j'ai, je ne sais pas si vous connaissez, si certains d'entre vous l'ont lu, qui est un livre tout à fait passionnant, qui fait des correspondances entre la cuisine chinoise et la cuisine française, avec un regard très pertinent. Moi, ça m'a fait penser, quand j'ai lu, aux correspondances que François Cheng prend entre la langue française et la langue chinoise. C'est un peu du même niveau, mais tourné sur la gastronomie. Et vraiment, c'est un livre qui nous apprend beaucoup de choses et qui était écrit à la fois savant et facile à lire, agréable, plein d'anecdotes, de légendes. Et c'est vraiment un livre qui nous apprend beaucoup, beaucoup sur la gastronomie chinoise, qui pour nous est quand même finalement plein de préjugés. On la connaît mal, d'abord parce qu'on intitule le restaurant chinois des restaurants qui ne sont pas chinois. Donc on mange rarement la vraie gastronomie chinoise, sauf ici à Bordeaux. On a de la chance d'avoir un des meilleurs restaurants chinois, sichuanais, un des rares restaurants sichuanais. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres.
À Bordeaux, oui.
Ah oui, voilà. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, on va faire un petit dialogue entre... Enfin, je n'ai rien préparé du tout. Je ne savais pas du tout que je devais présenter cette chose-là ce soir. Donc, c'est de l'improvisation. D'abord, j'ai demandé à Yu Zhu. On dit, vous avez un prénom, j'imagine.
Oui, mon nom, c'est Yu, en fait.
C'est Yu.
Oui, d'accord. Comme en Chine, c'est le nom de famille qui précède le prénom. Mon nom, c'est Yu.
D'accord.
Et mon prénom est Zhou. Oui.
Alors, on dit Vu.
Yu Zhou.
Oui. Voilà, vaut mieux parce
même
que...
Même prononcé très bien.
Voilà. J'ai jamais appris le chinois, donc je me sens un petit peu gênée. Donc, je vais vous demander de vous présenter un peu, parce qu'au début du livre, vous racontez une anecdote assez rigolote. Enfin, rigolote, je ne sais pas si on va appeler ça très drôle. De comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et quel est votre parcours en France?
Oui, et en fait, j'ai fait 4 ans, 5 ans d'études françaises dans une université à Shanghai, et je suis arrivé en France il y a une dizaine d'années, et je suis tombé amoureux de la belle France, notamment de sa cuisine. Donc pendant 5 ans, j'ai sillonné les différentes régions françaises et rencontré des grands chefs pour réaliser mon petit livre. Et l'idée de ce livre, en fait, il y a une anecdote comme sur la quatrième couverture. C'est un jour, je préparais pour un ami français une tasse de thé Puits du Dragon, un très délicat et très précieux. Mon ami français me réclamait du lait et du sucre pour son thé, donc une association aberrante pour un Chinois. Il faut savoir qu'en Chine, même le meilleur thé au jasmin n'est pas considéré comme un grand cru parce que le parfum du jasmin perturbe celui du thé. Mais d'autre part, certains consommateurs chinois n'hésitaient pas ou n'hésitent pas à rajouter du soda dans leur vin parce qu'ils jugent que le vin n'est pas assez sucré. Donc, ils mélangent le Sprite avec le vin et quelquefois, il peut s'agir des bouteilles de vin français très chères. Donc chaque fois quand je raconte ça à mes amis français, tout le monde crie au scandale. Il y a même, j'ai vu un reportage sur M6, c'est que dans certains supermarchés français en Chine, comme Carrefour, on trouvait une sorte de pack unique, probablement unique au monde, qui comportait une bouteille de vin et un Sprite. Hein. Donc le paradoxe dans cette petite anecdote donc m'a donné l'idée d'écrire ce livre parce que je pense que la cuisine est sans doute le meilleur moyen pour connaître la culture de l'autre. Comme le dit un écrivain français au 19e siècle, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc, ce sont souvent des détails de la vie quotidienne, mais je pense que ce sont ces détails qui sont peut-être les plus révélateurs de la mentalité d'un peuple. Comme j'ai aussi raconté une autre histoire rigolote, c'est un ami français est parti voyager en Chine il y a quelques années. Donc, un soir, Un jour, il se trouvait dans un petit village d'une campagne reculée et il cherchait un endroit pour manger. Comme il ne parlait pas le chinois et les villageois ne parlaient pas l'anglais et français, donc il a fait ce geste en essayant, en espérant que les autres le comprennent. Hein, donc il fait ça. Personne ne le comprenait et donc il a essayé avec un autre geste. Hein, non plus. Donc c'est après qu'il a appris qu'en Chine il faut faire ce geste. Donc ça symbolise un bol de riz et ça c'est une paire de baguettes. Donc ces trois gestes correspondent en fait aux trois manières de manger qu'on peut trouver dans le monde, avec les doigts qui représentent environ 40% de la population mondiale, avec le couteau et les fourchettes 30% et avec les baguettes également 30% qui sont essentiellement les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens et les Coréens. Donc c'est l'idée de son départ de ce livre.
Oui, effectivement, on est très loin. Pourtant, aussi bien en France qu'en Chine, la cuisine a une énorme importance. Ça fait partie de notre civilisation, de notre culture. On a fait inscrire le repas gastronomique au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Peut-être qu'un jour, on pourra mettre la cuisine chinoise, qui est très, extrêmement variée d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire la cuisine chinoise ?
Donc, c'est oui, je pense que c'est difficile de dire. Il y a des cuisines chinoises, en fait. Hein, donc, Monsieur Chan connaît probablement mieux que moi. Donc, donc la Chine est grande comme un continent. Entre le nord et le sud, s'étend sur 5000 kilomètres. Donc, les conditions géographiques, climatiques sont très diversifiées. Et de ce fait, les produits, la cuisine sont aussi très différentes. Donc, on distingue dans l'histoire de l'art culinaire, on distingue 12 zones d'influence culinaire. Donc, le premier, c'est la cuisine du nord-ouest. Oui, c'est... Ah non, nord-est. La deuxième, c'est la cuisine de Pékin, qui est... beaucoup de plats sont issus de la cuisine impériale, parce que Pékin était la capitale pendant plusieurs siècles. Ensuite, la troisième... de Shantung, ça c'est aussi une cuisine très très ancienne. Confucius, c'est le pays natif, natal de Confucius. La quatrième, la cinquième, il est à la huitième, la cuisine de Sichuan. Donc Monsieur Shan est réputé pour cette, je ne sais pas si...
La cuisine sichuanaise a son histoire, comme les huit grandes branches culinaires. Et c'est vrai que depuis notre présence à Bordeaux, c'est-à-dire depuis 1985, on a toujours travaillé la cuisine cantonaise et sichuanaise. La cuisine sichuanaise est rentrée dans notre répertoire à partir de 1987. Et pourquoi un tel choix ? Tout simplement parce que beaucoup de gens font une cuisine dite chinoise, mais le problème c'est qu'on n'en parle pas vraiment de leur spécificité. Et avec mon frère, on pense que c'est intéressant d'instaurer une branche qui est pure, cantonaise et sichuanaise, afin que les gens puissent enfin découvrir ces deux branches. La cuisine du Nord, les autres branches, on n'en parle pas parce que déjà, ce n'est pas notre zone et on essaie de faire ce qu'on connaît. Oups. Alors, donc depuis 87, donc à Bordeaux, vous avez donc l'occasion de goûter cette cuisine régionale de Sichuan, c'est-à-dire de la province du Sichuan, en fait de la province des pandas. Alors, ma présence ici à Molin, c'est aussi d'accompagner YouTube parce que je trouve que c'est extraordinaire de trouver pour la première fois un Chinois qui s'intéresse et puis qui fait une comparaison de la cuisine chinoise et française. Et il a beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est formidable. D'ailleurs, son livre, je l'ai découvert par le biais d'un ami qui m'avait offert. La personne m'avait offert à peu près une douzaine, comme ça, en me disant, tiens, il est génial ce livre de YouTube. Il faut que tu le distribues à tes clients ou à tes amis. Et j'ai regardé, effectivement, c'est tout à fait ce que je pense. Et puis, c'est tout à fait ce que je vois aussi dans le quotidien, parce qu'on côtoie beaucoup de gens. Et c'est vrai que la cuisine chinoise n'est pas toujours très bien comprise. Des gens. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans la baguette et la fourchette. Alors je recommande également vivement à mes clients de lire ce livre. Et j'ai eu cette occasion, grâce à Ségolène, donc, qui m'a proposé de faire quelque chose autour de l'auteur, Yuzu. Alors moi, je ne connaissais pas Yuzu, je disais, mais c'est un drôle d'oiseau, d'où est-ce qu'il venait, etc. Mais en fait, il s'avère que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture française, et puis je suis très content, parce que la plupart des étudiants que je rencontre, ou bien des Chinois que je rencontre en France, la plupart du temps, ce sont souvent des commerçants ou des étudiants, mais qui vivent d'une façon clanique entre eux, pas beaucoup avec des Français. Alors je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'ils viennent pour faire des études en France et puis ils rentrent en Chine. Et je pense que la culture française est très intéressante, particulièrement dans le domaine de la gastronomie. Et là, je trouve que Yuzu a fait quelque chose de remarquable, parce qu'il est curieux, il va goûter, en même temps il côtoie pas mal de Français. Et là, enfin, un Chinois comprend le français. Moi, ça fait 30 ans que je vis en France, donc c'est un peu différent. J'ai toujours côtoyé des Français. Mais pour des Chinois qui viennent de la plupart du temps de la Grande Terre, ils sont un peu coincés. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, quand j'ai vu ce livre-là, j'ai dit « Ah, c'est formidable ». Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, j'ai accepté de l'escorter pour, premièrement, présenter son livre et ensuite, pour les curieux, de passer au restaurant pour goûter des saveurs complexes de base. Je parle des saveurs complexes de base tout simplement parce que dans la cuisine sichuanaise, il y a une grammaire culinaire. La plupart des gens qui apprennent la cuisine chinoise ne connaissent pas, en fait, parce qu'en Chine, il y a différentes écoles aussi de la cuisine, mais dans le Sichuan, on a un barème, c'est-à-dire qu'on commence par les saveurs simples de base, et ensuite, à partir des saveurs simples, on fait des mélanges, on a ensuite des saveurs complexes de base. À partir des saveurs complexes de base, ils en ont classé 23, et les 23 saveurs sont ensuite utilisées, en fait, définies comme, en fait, pour marquer tel ou tel plat, telle caractéristique du plat. Et donc les élèves à l'école apprennent à connaître les 23 saveurs complexes de base, comment ils les travaillent à partir de 5 saveurs de base. Et je pense que pour les gens curieux, donc ce soir exceptionnellement on fait une soirée de la cuisine. On ne va pas faire les 23, mais on va en sélectionner quelques saveurs qui sont les plus courants, et donc de ensuite continuer à poser quelques questions au restaurant sur place. Voilà. Donc, Yuzu parle de la cuisine chinoise, parle de comportements de Français vis-à-vis de la cuisine chinoise. Je trouve que c'est formidable. Justement, c'est une façon de partager un peu nos points de vue.
Oui. Voilà. Et actuellement, je suis en train de préparer un guide culturel sur la gastronomie française destiné aux touristes chinois. Pourquoi ? Parce que j'ai vu dans les reportages aussi, connais des gens qui travaillent dans le tourisme, c'est-à-dire les touristes chinois, ils viennent, ils mangent dans les restaurants chinois en France, et je trouve c'est aberrant aussi. C'est comme si vous allez en Chine, vous voulez voir une copie de, je ne sais pas, de la Grande Muraille, de la Tour Eiffel. Donc, je pense que c'est très dommage pour eux. Donc, mais de notre côté, c'est-à-dire beaucoup de gens, on n'a pas travaillé assez pour faire découvrir la gastronomie française aux Chinois. Il n'y a pas des guides où les Chinois ils n'osent pas entrer dans un restaurant français parce qu'ils ne savent pas lire une carte, ils ne savent pas comment manger à la française, etc. Donc je pense que avec des échanges maintenant, il y aura de plus en plus de Chinois qui vont, peut-être comme les Japonais aussi, qui sera passionné aussi de la culture, de la gastronomie française.
Justement, je prends au vol quelque chose, je le lisais ce matin dans le train, un des passages très intéressants de votre livre dit les Chinois ne savent pas lire une carte, oui. Les intitulés des plats, c'est vrai que nous... Il y avait un article qui m'avait énormément plu sur justement, de plus en plus, on détaille sur les plats, les plats français, on détaille, on sait tout ce qu'on a dans l'assiette avant même d'avoir, voilà. Alors que les intitulés des plats chinois sont extrêmement poétiques et imagés. Et pour nous, ça ne veut rien dire du tout. Par exemple, la soupe de perles et d'émeraudes et de jade blanc, ça fait un peu conte de fées. Les sorcières, ils leur sortent de la bouche des pierres précieuses quand elles podanent, vous savez, que quand elles parlent. C'est tout à fait étonnant pour nous.
Oui, parce que, on dit souvent que c'est une sorte de chinoiserie. Parce que la Chine est un pays de poèmes, de poètes. C'est la tradition, vraiment, 2500 ans d'histoire. Le premier recueil de poèmes date de la dynastie des Zhou de l'Ouest, c'est-à-dire il y a 2500 à 2700 ans. Et ensuite, on a des grands poètes dans, tout au long de l'histoire, Chu Han Li Bai, qui est aussi c'est connu en France. Et donc, on aimerait donner un nom poétique, un objet, que ce soit une pierre, un arbre ancien, un arbre ou le studio, une maison. Hein, donc, c'est un plat aussi, parce qu'on considère qu'ils ont aussi une vie. Donc, on aimerait lui donner un nom.
Ça procède aussi d'une autre réflexion à propos de la nourriture. C'est pas uniquement se remplir le ventre.
Non, c'est parce que c'est les Chinois sont passionnés de l'écriture, de la calligraphie et de la poésie. Donc c'est vraiment une tradition millénaire.
D'accord.
Par exemple, un studio, même à Paris, un studio de une petite chambre de 10 mètres carrés. Peut-être un poète chinois il va lui donner un nom comme. Studio pour contempler les étoiles, parce qu'il est plus près des étoiles. Donc là, c'est vraiment une tradition chez nous.
Très bien. Alors voilà, on découvre des choses tout à fait étonnantes dans ce livre d'ailleurs. Il y a plusieurs articles là-dessus. Il y avait aussi quelque chose qui était extrêmement amusant, c'est les métaphores du corps féminin. Oui. Par rapport à la gastronomie, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose?
Oui, parce que dans le livre, j'ai cité un écrivain français qui disait, avec un peu d'ironie, que les descriptions des femmes dans la littérature française ressemblent à des vitrines de bijoux. Donc, on voit des cheveux d'or, des yeux émeraudes et des dents perles, des lèvres de corail. Et dans la littérature traditionnelle, ou même aujourd'hui, dans la littérature chinoise, c'est on aime utiliser des fruits, des fleurs, pour par exemple, joues de fleurs de pêche, les yeux d'abricot, les petites bouches de cerise, ou bien encore la peau de la graisse figée.
C'est moins joli.
C'est un peu, en français, on peut dire un peu une peau laiteuse. Oui,
laiteuse.
Oui. Donc je pense que c'est dans cet esprit. Les doigts blancs comme la tige de ciboulette épluchée. Donc peut-être les Chinois, est-ce que les Chinois sont plus naturalistes ou bien plus gourmands? Ou peut-être ils considèrent que la beauté d'une femme est aussi éphémère et fragile que celle des fleurs ou des fruits. Hein? Donc, c'est aussi une habitude et une tradition chinoise.
Bon. Bon, alors voilà. Je trouve ça un bel hommage à rendre aux produits et à la cuisine qu'on considère. En France, finalement, on est un pays de gastronomie, mais on en parle assez peu et on compare très peu. Oui, mais on en parle par rapport à ce qu'on mange, mais on n'en parle pas dans un contexte culturel, dans un contexte poétique. Elle fait pas. Il n'y a pas tellement, finalement, moi j'en recherche de temps en temps, de textes qui. Des très beaux textes sur la gastronomie, on n'en trouve pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant qu'on l'imagine. Oui, mais alors on en parle, on est à table et on compare toujours à ce qu'on a mangé ailleurs ou voilà, le pot-au-feu que fait mieux un tel. Voilà. Mais c'est moins dans un contexte littéraire et poétique. Il y a chercher des poèmes sur le... Oui. Si, tout à fait. Mais voilà. Mais c'est assez, c'est pas fréquent, il faut bien le reconnaître. Et c'est peut-être plus de régions qui ont un rapport à la gastronomie extrêmement fort.
Au réel,
oui.
Construit un rapport au réel
qui est différent.
Ah, oui. Langues chinoises ou la langue d'oc.
Je ne connais pas la Languedoc, excusez-moi. Alors, je ne peux pas en parler. Mais dans la littérature française classique, si, Rabelais, évidemment, d'autres. Mais il n'y a pas... La poésie, très peu. Elle est beaucoup plus éthérée, on va dire. Donc, on va plus dans les hautes sphères de l'intellect que vers l'estomac, finalement, dans la littérature. Et pourtant c'est fait partie de... Vraiment de la culture française, elle a imprégné notre façon d'être, elle a imprégné les paysages par les productions. C'est quelque chose, la gastronomie et le vin d'ailleurs, qui est extrêmement important. Et moi, je trouvais ça intéressant justement de repérer cette petite différence où la gastronomie et les comparaisons avec la gastronomie dans la littérature ou dans la civilisation chinoise sont beaucoup plus importante que chez nous. On dirait pas qu'elle... Si on parle de lèvres cerises, ça, tout à fait, mais de doigts qui ressemblent à des tiges d'oignons, ce serait considéré comme quelque chose de terrible. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dignes d'être comparées, parce que voilà, c'est très joli, très gracieux, et ce qui est plus prosaïque, entre guillemets, voilà, on le garde, on ne le dit pas. Enfin, il me semble, moi, que c'est comme ça. Je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas sûre. On parle beaucoup de gastronomie oralement, beaucoup moins dans les écrits, je pense.
Oui, c'est que peut-être les Anglais sont encore moins, même.
Oh, oui.
Donc, chez nous, la nourriture, c'est quelque chose qui est entré dans la vie quotidienne. Même les poètes écrivaient des poèmes sur les nourritures. Donc, on peut trouver pas mal dans l'histoire de la littérature chinoise.
D'accord. Bon, alors, je vous invite à lire la littérature chinoise. Ce soir, on va en lire un petit peu... en entremets, comme dans les repas d'autrefois, et sélectionné là-dedans et puis dans d'autres textes. Pardon. Excusez-moi. Vous m'aviez dit que vous vouliez passer un petit film, enfin un petit extrait.
Donc, comme dans ce livre, je ne peux pas montrer, faire une vidéo, donc je profite de cette occasion pour parler un peu la manière. Il y a un texte sur la manière de manger à la chinoise. Parce que je trouve donc la plupart des Chinois n'ont pas l'occasion de manger dans un restaurant français en Chine. Hein. Les Français ici, on a l'habitude d'aller manger dans les restaurants, mais on connaît peut-être pas bien la manière dont les Chinois prennent leur repas, que ce soit au restaurant ou à la maison. On peut voir certains films chinois, des scènes de table dans certains films chinois, mais on n'y prête pas nécessairement attention. Donc je vais vous montrer un extrait d'un film qui s'appelle Épouse et concubine. Oui, c'est un film très connu, un film de Gong Li. C'est l'histoire d'une grande famille avec le mari et ses quatre épouses au nord de la Chine, probablement dans les années 1920 ou 30. Oui, tout à fait. Et donc, dans un repas familial chinois, donc tous les plats sont placés au centre de la table, autour de laquelle s'assoit toute la famille. Et chacun pioche avec ses baguettes dans un plat. Et si c'est un repas à la maison, donc le riz est servi dès le début du repas. Contrairement au restaurant, souvent c'est d'abord les jus de fruits, l'alcool, les boissons qui sont d'abord servies, et le riz n'arrive qu'aux deux tiers du repas. Et en général, on est déjà rassasié parce que les plats sont plus nombreux qu'à la maison et on s'en passe très souvent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc c'est l'ordonnance d'un banquet chinois. Donc en le repas français, il y a aussi une l'ordre. C'est d'abord l'entrée, le plat principal, fromage, le dessert. Et dans un banquet chinois, on commence par les assiettes froides, qui sont généralement des viandes, des crustacés marinés. Ensuite, des plats chauds. Ça peut être un poisson, une viande ou d'autres choses. Et après, c'est les aliments de base, du riz, des nouilles, ou pain à la vapeur. Et la soupe arrive après. Et puis, à la fin, il y a une collation. Ça peut être sucré ou salé. Et ensuite, ce sont des fruits. Donc, voici un exemple. C'est le menu du premier banquet d'État. Donc, vous avez 4 assiettes froides. Canard à l'osmont, poulet à l'huile, champignons d'hiver au créneau de noix, terrine de viande de Zhejiang, Zhejiang xiaorou. Ensuite, vous avez 8 plats chauds, une soupe, c'est une soupe claire au nid d'hirondelle, c'est considéré comme un produit noble, comme en France, truffe ou caviar. Un foie gras. Et à la fin, vous avez 4 collations, rouleaux de printemps frits. Donc en France, on commence par des nems ou des rouleaux de printemps. Mais en Chine, c'est à la fin. Et brioche à la purée de haricots rouges, c'est ça, c'est sucré. Millefeuilles et fruits. La troisième remarque, c'est les préséances. Donc autrefois très compliquées, aujourd'hui, elles se sont beaucoup simplifiées. Je pense qu'en France, quand on veut organiser un grand banquet, comment placer tous les invités, c'est aussi une casse-tête. Je me souviens que Madame la baronne Nadine Rothschild nous a dit qu'il ne faut jamais placer le mari, sa femme et sa maîtresse dans la même table. Mais dans le film chinois, c'était beaucoup plus simple. Donc le mari prend la place d'honneur, qui est le numéro un. Donc la première épouse est à sa gauche, ensuite la deuxième, la troisième et la quatrième épouse. Donc la place d'honneur, c'est toujours endossée au mur et face à la porte, à l'entrée. Et la quatrième épouse, donc, c'est la place qui est près de la porte. Donc ça, c'est seulement les préséances au nord de la Chine, au sud de la Chine, ou bien si c'est à une table ronde, c'est encore différent. D'autres exemples, si la table est faite avec plusieurs planches de bois, il faut que les lignes soient horizontales par rapport à la place d'honneur. Donc la ligne doit être comme ça, s'il y a 3 planches de bois. Ensuite, il est poli de servir de temps en temps les autres convives. On utilise toujours les mêmes baguettes. Donc dans le film, la première et la deuxième épouse ont servi la quatrième épouse qui vient d'arriver, sauf la troisième. Pourquoi ?
Jalouse.
Parce qu'elle est très jalouse de sa nouvelle concurrente. Et ensuite, en Chine, il est courant de tenir le bol de riz à la main et manger tout près de la bouche. Ce n'est pas impoli. Vous avez aussi d'autres, par exemple, quand je mange avec mes amis français, j'ai souvent remarqué que quand on pioche dans un plat, on hésite à choisir un morceau, ce qui sera très mal vu en Chine. Pourquoi ? Parce que la moindre hésitation sera interprétée comme le choix du meilleur morceau, et donc vous laissez moins bon aux autres. Donc, c'est un peu pas hypocrite, hein. C'est-à-dire il faut déjà viser un morceau avant de tendre vos baguettes. En général, dans un banquet ou dans un repas familial, autrefois, c'était la personne la plus âgée ou la personne qui a plus d'autorité qui dit « mangeons ». Dans le film, quand le mari était présent, donc c'est le mari qui dit cette phrase. Ensuite, quand il n'est pas là, il est absent, c'est la première épouse dans le deuxième extrait. Donc il y a beaucoup de subtilités qu'on trouve dans aucun manuel de savoir-vivre en Chine. Ce sont des codes qu'on apprend quand on est enfant. Donc c'est Et puis pour les Chinois, comment utiliser les baguettes, le couteau et la fourchette, c'est aussi quelque chose de nouveau. Par exemple, j'ai remarqué aussi souvent les Chinois baissent la tête parce que c'est autorisé dans la culture, la manière de manger chinoise s'approche de la nourriture. Parce que pour raccourcir la distance entre la bouche et la nourriture. Mais ce sera aussi pas très élégant, je pense, dans la manière française. Hein. Et puis, on peut aussi prendre un petit bol à la main, tout près de la bouche. Donc ça, ce n'est pas non plus autorisé à la table française. Voilà, donc c'est un petit... Petite remarque sur la manière de manger.
Oui, nous, en France, quand on apprend à manger à nos enfants, on leur dit c'est la fourchette qui va à la bouche, oui. Et non pas la bouche à la fourchette. Voilà. Donc c'est exactement le contraire, en fait. Et...
on en est loin maintenant parce qu'ils mangent pas d'accord pour
moi. Non, mais voilà, on en est loin, mais c'est ce qu'on leur disait quand même. Qu'on continue à essayer de leur dire. Oui. C'est-à-dire que oui, on n'a plus les mêmes manières de manger, tous ces repas. Prier, ces repas familiaux existent moins, c'est plus décontracté en règle générale. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de savoir-faire et savoir-vivre plutôt qui se perdent en France. Je ne sais pas si en Chine, la Chine actuelle, on a gardé les traditions, parce qu'en France, ça se perd quand même pas mal.
Oui, oui, je pense, dans un texte, j'ai expliqué, c'est que à table. C'est-à-dire la manière de manger à la chinoise consiste, la politesse chinoise consiste à montrer comment partager la nourriture. Il y a une hiérarchie, et tandis que la manière française, je dis sous votre contrôle, c'est pour créer une atmosphère agréable, élégante. Donc on fait très attention à la manière de manger. Donc dans la Chine traditionnelle, c'est pas quelque chose qui est très important. Pendant une courte période dans l'histoire chinoise, donc ça c'est vraiment, les gens ont été conscients, ont fait très attention à l'apparence. Mais ensuite, c'est plus une société très hiérarchisée, hein, donc c'est un peu différent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mode qui vient de l'Occident. Hein. Donc, il y a des jeunes Chinois qui prennent des cours pour de savoir-vivre à la française ou à l'occidentale, hein, surtout dans les grandes villes. Et je pense aussi, dans le livre, je dis aussi que la France, comparée à la Chine, c'est un pays plus industrialisé et capitaliste depuis plus longtemps que la Chine. Donc forcément, il y a des choses, la société s'organise autour des valeurs différentes. Donc en Chine, c'est plus vers au centre de la famille, de l'hiérarchie, de l'autorité. Hein, et tandis qu'en France, donc c'est peut-être un peu différent. Il y a des ressemblances, je crois.
Il y a des manuels de savoir-vivre qui datent du Moyen-Âge ou de la Renaissance, surtout qui viennent d'Italie, oui. Et France. Et là, on faisait attention d'être propre, en fait, de ne pas boire, parce qu'on avait un seul verre pour plusieurs convives, donc de bien s'essuyer la bouche avant de boire, de ne pas manger sur la tranche de pain de son voisin, de ne pas se curer les dents avec un couteau. Enfin, c'était plutôt des choses de propreté, parce qu'on était quand même un peu rustique, il faut bien reconnaître. Et même dans les tables aristocratiques, et c'est vrai que, comme vous dites tout à fait justement, les vraies règles de savoir-vivre, elles sont édictées à partir du 18e et du 19e. 18e, évidemment, on mange encore avec tous les plats sur la table, un peu comme en Chine d'ailleurs, et chacun prenait ce qu'il pouvait autour devant lui, parce qu'on ne mangeait pas tout ce qu'il y avait sur la table. Et c'est qu'au 19e où là, il y a vraiment un service qui vient des restaurants d'ailleurs, hein, un service où on vous sert, on découpe les volailles, les rôtis, les poissons à côté, on dresse sur des assiettes d'une façon élégante, qui est vraiment complètement nouveau. Et on apprend à se tenir à table avec les services qui existent depuis le 18e siècle, en fait, hein, les services complets avec plein de verres, plein de fourchettes, plein d'assiettes, etc. Et on codifie, et là, ça devient très compliqué de manger proprement, de se servir du bon ustensile, qui déconcerte souvent d'ailleurs les étrangers. Et donc, on a édicté des manières de savoir vivre et de savoir manger proprement et dignement à table. Mais c'est très récent. C'est effectivement très récent.
En fait, dans l'histoire des codes, dans les archives du 11e siècle avant l'ère chrétienne, sur les odes de poèmes, le canon des odes, sans mentionner des façons de consommer chez les Chinois. Donc c'est bien clair. Et Confucius avait bien aussi fait ressortir ça depuis l'époque Zhou. Hein. Donc Zhou, nous sommes du 11e siècle avant l'ère chrétienne. Et donc il y avait des notes qui ont été laissées pour montrer comment se tenir à table. Et ça, oui, c'est intéressant.
Le livre des rites, oui. Par exemple, il est déconseillé de manger du riz avec les doigts.
Oui, c'est très mal vu. Oui. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, il y a de plus en plus de chercheurs. Hein. Je pense que les circonstances permettent maintenant aux gens de faire des études, d'aller plus loin. À l'époque, les traductions à propos des archives anciennes sont assez rares en raison justement du manque de sinologues ou bien de chercheurs. Maintenant, on a des universités qui forment des gens. Ça permet donc aux gens de chercher. En plus, avec Internet, on a beaucoup de sources. Et maintenant, les gens sont disponibles aussi pour aller sur place. Hein, les voyages ne sont pas excessivement chers. Et puis, c'est abordable d'aller voir, de trouver des documents et puis en même temps les traduire. Et heureusement, les Américains ont fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. De même que les Français, maintenant, il y en a de plus en plus. Et là, on a de la chance de retrouver des traductions, en fait, de trouver des gens qui font des traductions à partir des documents anciens. Et ça, ça va encore nous apporter des éclaircissements sur le comportement donc, alimentaire. Des gens actuels, en fait des Chinois qui sont de l'époque. Voilà. Bon, après, il y a aussi l'influence, si vous voulez, des échanges. On peut aussi consommer des repas différemment, d'une façon plus relaxe. On n'est plus dans le carcan des rituels de Confucius, heureusement, parce que c'est un peu lourd. Hein. Bon, ça, mais il y a des gens qui ont la nostalgie du passé, hein, de temps en temps, pourquoi pas, hein, on rigole un petit coup.
Et dans le livre, j'ai aussi parlé d'une notion qui m'a... Il y a beaucoup de Français qui m'ont... C'est la notion de la fadeur dans la cuisine chinoise et dans la culture, même dans la culture chinoise. C'est-à-dire, on apprécie la fadeur de certains aliments. Ce n'est pas une notion négative, la fadeur, comme le riz, nature, ou bien le tofu, qui n'a pas de goût spécial. Parce qu'on considère que... ça, c'est aussi une notion qui vient d'un grand philosophe chinois, Lao Tzu, au 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il dit « savourer ce qui est sans saveur ». Donc, pour lui, la fadeur, ou pour beaucoup de Chinois, la fadeur, c'est comme le silence par rapport à la musique, ou bien l'espace par rapport à l'architecture. Donc c'est le premier qui donne naissance au second, mais pas inversement. Donc le riz, nature, qui n'a pas de goût, c'est la fadeur, c'est un contraste avec les plats de différents goûts sur la table. Donc on apprécie ces goûts différents, quelquefois très prononcés, mais on apprécie aussi cette fadeur. Un spécial de vin français qui a conseillé d'apprendre à déguster le vin. On apprend d'abord à déguster le goût de l'eau, qui n'a pas de... Mais c'est-à-dire on développe une disponibilité, une neutralité qui nous permet d'avoir des appréciations plus étendues.
Oui, c'est ça, une perception plus fine.
Oui, plus fine. Parce que, par exemple, beaucoup de Chinois du Nord, je connais certains mes compatriotes chinois du Nord de la Chine qui n'aiment pas le goût sucré des macarons et tout. Oh, c'est trop sucré, je ne peux pas manger. Parce que dans la cuisine du Nord, c'est très, souvent très, très salé. Même pour moi, c'est très salé. Donc, je ne sais pas s'il n'a plus de capacité ou la volonté d'apprécier ce goût sucré. Donc, je pense que la fadeur, c'est aussi quelque chose de très... c'est essentiel même pour nous, les Chinois. Et aussi, j'ai parlé aussi dans le livre, c'est la notion d'un petit peu. le premier texte. J'ai trouvé dans un vieux livre de recettes chinois une recette de bœuf à la sauce de soja qui est composée, marquée 3 livres de bœuf, quelques morceaux de gingembre, quelques brins de ciboulette, un peu de sucre et d'alcool de riz. Donc pour un lecteur français ou pour un lecteur surtout allemand, peut-être c'est incompréhensible. Hein. Donc un peu, c'est un gramme, deux grammes, hein, on ne sait pas. Et ce qui m'a marqué aussi, j'étais invité dans une famille française et donc on a préparé une recette. Et cette recette est pour 4 personnes, mais on est 3, on était 3. Et donc la dame m'a dit, oh, je ne peux pas faire comme ça pour 3 personnes, donc je vais faire même si on n'est que 3. Donc pour un Chinois, il va peut-être dire, je vais diminuer un petit cet ingrédient, un autre. Donc là, c'est aussi une mentalité très différente, parce qu'on considère que si on est trop précis, ce n'est plus un art, on devient un artisan. Donc là, il y a une citation de Lao Tzu qui dit, la voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé par la voix éternelle, le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. La règle ultime, c'est qu'il n'y a pas de règle. Hein. Donc c'est pour des grands artistes, c'est peut-être vrai. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas, pour vous, c'est un petit peu... Un tout petit peu.
Je pense que ce qui est subtil, d'ailleurs, qui donne de l'ouverture, de liberté, c'est justement de pouvoir, à partir... prenons un morceau de musique, par exemple, vous avez la partition devant vous, tout le monde joue le même morceau, mais en fait, on distingue des interprètes ou des artisans de la musique. Et je pense qu'en cuisine, c'est la même chose. Vous avez une recette avec un nombre d'ingrédients mentionnés, avec un grammage. Mais à savoir aussi que même si vous appliquez le grammage, selon les périodes, selon certains millésimes, le taux, l'intensité du vinaigre est plus corsée ou moins, ou bien la sauce de soja est plus ou moins corsée. Si vous mettez les mêmes dosages en litres, etc., pour faire votre recette, vous serez parfois surpris. Mais par contre, le plus important, à mon avis, c'est d'avoir des gens qui ont expérimenté une recette, qui ont connu, qui ont noté ça dans la tête, hein, et qui ont l'habitude, qui peut, en goûtant ce plat-là, en disant que, certes, les ingrédients y sont, mais ils sont un peu plus comme ça, moins comme ça, etc. Et je pense que les repères en cuisine, c'est le plus important. D'ailleurs, quand j'ai appris la cuisine sichuanaise avec mon frère auprès du maître de la cuisine sichuanaise à Montpellier, lui, ce qu'il nous montrait, c'est d'abord de goûter le goût originel du produit, premièrement. Et ensuite, en les mélangeant, il y a une saveur complexe de base qui nous demande donc de goûter, de répertorier. Et à partir de là, il nous dit, à partir de ces mélanges-là, vous avez ce goût-là. Ce goût, il est comme ça. Nous prenons l'exemple très simple du, par exemple, le coup de tonnerre avec pluie de perles de crevettes. Bon, qu'est-ce que c'est ça ? Coup de tonnerre, c'est un plat sonore à base de riz soufflé croustillant. Hein, c'est du riz qu'on fait cuire, ensuite qu'on le fait sécher. L'origine vient du fait que les gens, dans leur casserole, après la cuisson du riz, il reste toujours du riz collé au fond, qui ont été cuits un peu plus sèchement. Et donc, c'est un peu dur. Alors, on le sert pas aux convives. Et donc, ils sont au fond de la casserole, qui sont ensuite récupérés, parce qu'on ne gaspille rien en Chine. Donc, on le laisse sécher un peu, ou bien on le laisse de côté. Et quelques jours après, ça devient sec. Et cette plaque de riz en question, pour ne pas gaspiller, les Chinois font frire dans l'huile et ça devient croustillant, très agréable. Et voilà, ils ont, à partir de là, inventé un plat qui s'appelle coup de tonnerre parce que ce riz soufflé croustillant étant très chaud, dressé dans une assiette et ensuite déposé sur la table et sur lequel on vous verse immédiatement une préparation composée d'une sauce avec de la viande ou bien des crevettes, etc. Sur ce riz soufflé, ça crépite, ça donne un bruit soudain. Et donc, ça fait effrayer les gens. Alors, du coup, on l'a baptisé coup de tonnerre avec pluie de perles de crevettes parce qu'on verse les crevettes. Bon, ce plat-là, par exemple, dans la définition de la cuisine sichuanaise, ce plat possède une saveur. Ça rentre dans la catégorie des saveurs dites litchi. c'est-à-dire le fruit litchi. Mais qu'est-ce qui vient faire le litchi là-dedans? Il n'y a pas de litchi. Simplement, le goût de litchi possède un côté, un taux d'acidité hein, très légère et un côté douceâtre. Totalement différent des saveurs aigre-douce, dominante, contrastée que nous avons dans la cuisine cantonaise. Et là, justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas la recette de base et qui n'a pas de repère, certes, il va suivre la recette de coup de tonnerre avec plus de crevettes, par exemple. Il va ajouter, certes, du vinaigre de riz et du sucre, mais quelle est la dose là-dedans? Parce que s'il y a trop de vinaigre, trop de sucre, ça va faire une saveur complexe, dite sucrée-salée, acidulée. Mais le côté subtil de coup de tonnerre, justement, c'est de pouvoir goûter la croustillance du riz, en même temps savourer une saveur qui est acidulée, douceâtre, mais en filigrane présente. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, quand vous ne savez pas, ben, vous mangez le coup de tonnerre, eh ben, bon, c'est bon, hein, parce que c'est croustillant. Mais pour les connaisseurs, ils vont dire, celui-là, il est un peu trop acidulé ou bien trop sucré. Ce n'est pas tout à fait ça. Idem pour les saveurs du poulet à la mode du mandarin gongbao. Le piment en question qui est ajouté pour faire sauter avec les poulets. Parce que ouais, gongbao, il faut dire que gongbao, c'est un titre dans le mandarinat chinois. Il y a un monsieur qui s'appelle Ding Gongbao. C'est un ancien fonctionnaire qui a pris sa retraite, qui est descendu dans le Sichuan. Il avait l'habitude donc de manger, il aime beaucoup les cacahuètes et le poulet sauté au wok à feu très vif avec du piment grillé. Et il avait un cuisinier de Yunnan qui lui préparait souvent ce plat-là. Et donc, chaque fois que vous êtes invité chez Gongbao, ben, vous avez droit à ce fameux plat qui est quand même un plat connu de chez lui. Et du coup, ce plat, en fait, Gongbao a donné son nom au plat. Tout le monde appelait le poulet à la mode du mandarin Gongbao. Et maintenant, le poulet Gongbao, qui a sa paternité dans le Sichuan, on le retrouve aussi à Pékin parce qu'il y a des gens qui disent que Gongbao, ce n'est pas tout à fait sichuanais parce que ça vient du terme mandarin. Gong, qui veut dire mandarin, pao, c'est sauté. Alors, ça veut dire que c'est le poulet qui est sauté à la mode du mandarin. Mais en fait, l'histoire, d'après les archives de la cuisine sichuanaise, Gongbao, en fait, c'était tout simplement le mandarin qui a pris sa retraite de Pékin, qui est descendu et qui a fait ça et qui a donné donc le nom à ce poulet à la mode Gongbao. Et à Canton, vous trouvez aussi ce poulet à la mode Gongbao, certes préparé d'après les cantonais à la manière traditionnelle, mais en fait, il n'y a plus de piment là-dedans, il n'y a plus de cacahuètes, il n'y a plus de poivre anesthésiant. Alors, je parle du poulet Gongbao parce que dans les poulets Gongbao, bien que ce plat soit préparé avec du piment grillé, mais en fait, vous avez une saveur qui est derrière, qui est acidulée, douceâtre, mais très fine. Et toute la subtilité est là. Alors, les gens qui ne savent pas faire le poulet gongbao, ils vont faire sauter, certes, avec les mêmes ingrédients, mais c'est peut-être parfois trop salé. Il n'y a même pas le goût acidulé, sucré derrière, et, ou bien trop sucré, hein, ou bien trop pimenté. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, le poulet à la mode gongbao, c'est un plat casse-tête. Si vous demandez au cuisinier de le faire, il va faire un peu la tête parce qu'il sait que vous êtes en train de le tester. Alors, quelqu'un qui connaît, ce n'est pas un problème, il va faire le poulet à la mode gongbao. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un peu délicat. Hein? Donc, poulet à la mode du mandarin gongbao, ça c'est intéressant. Et vous pouvez l'effrayer, le cuisinier, vous dites, vous faites un vrai poulet à la mode gongbao. Le gars, quand il va hésiter, enfin, s'il hésite, ben, vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pour vous dire qu'il est important donc, de connaître les saveurs simples de base pour connaître le repère. À partir de là, à partir de ce repère vécu, vous pouvez donc restituer la recette comme ça. Sinon, la recette va continuer à évoluer, hein, mais si les, par exemple, plus tard, je ne sais pas moi, deux siècles après, si les gens n'ont plus ce repère-là, ils vont trouver la recette, ils vont pouvoir le refaire. Mais est-ce que c'est ça? Les choses ont changé. Alors, ce qui est important, c'est d'apporter au fur et à mesure donc, l'enseignement de ces repères-là. Et c'est ça qui fait la magie, en fait, à mon avis, du savoir-faire traditionnel ou le savoir-faire livresque. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse de la cuisine.
Mais les premiers livres de recettes qui existent jusqu'au 19e siècle, c'est pas très précis. On met un peu de quelque chose, une cuillerée, c'est une grande, une petite. Oui. Voilà, parce qu'en fait, comme ça se transmettait oralement, on savait, on avait le geste, on apprenait par cœur et on a commencé à mettre des grammages et des temps de cuisson quand les gens... quand les gens ne savaient plus faire la cuisine et qu'il n'y avait plus de transmission. Oui, mais tant qu'il y a une transmission orale, on n'a pas besoin. D'ailleurs, quand on fait une recette familiale de tête.
Tout à fait, oui. C'est aussi l'industrialisation.
Oui, aussi, que, oui, oui, mais je crois que c'est vrai que... Oui, les premiers, je crois que c'est Ginette Mathieu qui était professeure d'art ménager et qui a fait les premiers livres de recettes, vraiment avec le grammage, le temps de cuisson, la chaleur du four. Mais bon, un four, ça chauffe, il ne chauffe pas tous pareil. Donc, après, c'est à chacun de tester la recette, comme oui, tu disais, et de l'adapter à son four, à sa... Parce qu'on pouvait pas, ça, on pouvait pas avoir de cuisson précise quand on était sur le feu de la cheminée. Ou...
Oui, dans le livre, que les livres de cuisine servent donc à donner une indication très générale. Donc c'est au lecteur de forger sa propre opinion et de trouver la voie qui lui convient. Donc c'est précisément là que réside l'art culinaire. Et d'ailleurs, un proverbe chinois dit que le livre est figé. Mais l'homme est vivant.
Ah, il faut ajouter aussi un autre proverbe qui est très important, qui est la base de la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas de goût absolu. Le goût qui vous convient est le goût juste. Et ça, c'est pour tous les cuisiniers. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imposer son goût. Mais par contre, il peut travailler une recette qui est d'après un repère, puis après, à vous d'aimer ce repère-là ou non. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que deux fois, il y a des gens qui viennent manger dans mon restaurant qui disent que ah, ça, ce n'est pas une cuisine chinoise, ou bien c'est trop francisé, ou c'est trop... je vais vous raconter une anecdote, si vous voulez, d'un guide Michelin espagnol qui est venu, parce qu'il nous voulait qu'on lui fasse un banquet particulier pour quelques chefs à Bilbao. Alors j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Alors il m'a dit, je veux quelque chose d'authentique, chinois, pur chinois. J'ai dit, bon, mais pas de problème, tu t'assois. On va faire 15 saveurs de complexe de base, vous allez goûter. Hein. Et puis après, vous allez choisir parmi les 15 spécialités, peut-être 8 spécialités, ok, pour vos chefs. Donc le repas a été fait, 15 saveurs ont été dégustées. Alors j'ai dit, alors, lequel vous préférez? Alors comment vous trouvez dans l'ensemble? Elle a dit, bon, ben... Premièrement, votre cuisine est trop francisée. Deuxièmement, votre cuisine est trop épicée. Et troisièmement, votre cuisine est trop cuite. Bon, je dis, écoutez, premièrement, dites-moi quelles sont les épices qui sont françaises. Dites-moi. Bon, il ne peut pas le dire. Bon, la viande, elle vient de France, hein, elle ne vient pas de Chine. Ok, d'accord. Les légumes, etc. aussi. Bon. Bon, qu'est-ce qui est trop épicé? Vous voulez quoi, une cuisine française alsacienne ou bien des landes pas pimentées? Vous voulez quoi? Vous me demandez quelque chose de traditionnel. Alors, traditionnel, ben, j'y vais, hein, je rentre dans la région de Sichuan qui est réputée très contrastée en saveur. Alors là, il n'a rien dit. Et troisièmement, trop cuit. Ben, les Chinois, en fait, mangent toujours des produits cuits. Il n'y a pas de mi-cuit normalement. Nous avons chez nous au restaurant un plat intitulé lamelles de bœuf mi-cuit à l'huile rouge et piment. Mi-cuit parce qu'on a travaillé un peu la texture du bœuf afin de le faire saisir avec de l'huile pour le rendre mi-cuit, mais on ne voulait pas le faire pocher dans une infusion à base d'herbes aromatiques pour le rendre comme dans la tradition, pour que les saveurs rentrent, pénètrent dans la viande. Parce que des fois, effectivement, c'est très goûteux, c'est vrai. Mais du point de vue texture, c'est un peu dur. Alors du coup, on s'est dit, bah, écoutez, on va simplement saisir, on va le faire macérer, on va le faire saisir avec de l'huile, et on le mélange avec de l'huile rouge de piment. Comme ça, vous avez une texture qui est tendre, en même temps mi-cuit, parce que l'extérieur est saisi. Ah, tout le monde est très content. Et par contre, les Chinois, ils n'ont pas l'habitude. Mais par contre, les Français trouvent que c'était génial, parce qu'il y a un côté un peu carpaccio, mi-cuit, etc. Bon, si vous voulez, on peut dire que les ingrédients, ils sont le savoir-faire. Ils sont, mais simplement, on a doser la cuisson. Alors, le guide Michelin en question, donc je dis, ben écoutez, vous n'avez pas pu me répondre en question, là, les plats, au fait, que vous cherchez, c'est pas tout à fait ça, vous gourrez totalement. Alors je dis, avant de venir quand même vous renseigner pour vouloir commander un tel repas, il vaut mieux que vous lisiez Balthazar Gracian, quand même, pour savoir un peu l'art de la prudence, ok? Alors, je me demande s'il connaissait Balthazar Gracian ou non. Alors il a dit, il vaut mieux avoir lu Balthazar ou bien faire une bonne cuisine. tu dis, les deux ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires. Alors, il est rentré à Bilbao. Bon, il a eu un peu de lucidité quand même d'écrire un article pour dire qu'à Bordeaux, il y a un restaurant un peu particulier. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote. Hein. Donc, c'est une question de goût. Il est très important. C'est pour ça que quand les gens viennent chez moi, je leur demande stop. On va commencer par est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quels sont vos tabous alimentaires? Hein, c'est important parce que j'ai 23 saveurs complexes dans la tête. Je peux éventuellement vous orienter. Il y a des ingrédients, il y a des choses que vous ne pouvez pas manger. Hein, par exemple, poivron vert, concombre, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Du coup, ben, au fur et à mesure qu'ils donnent leur tabou, je les écarte. Puis après, ceux qui restent, là, il y a encore beaucoup de marge. Alors, j'essaie de leur faire découvrir ça. Si les gens disent qu'ils n'ont pas de tabou alimentaire, c'est bien. Alors, on va prendre ça, puis on va vous le faire découvrir. Après, si c'est bon ou c'est pas bon, c'est une question de goût. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on œuvre beaucoup pour que ça soit plaisant pour les gens. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Montrer un bout de fromage de Roquefort à un Chinois qui vient d'arriver, il sera un peu surpris, puis vous allez voir la grimace qu'il va faire. Bon, idem, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir mes clients partir avec une grimace. J'essaie quand même de me renseigner, prendre un peu d'avance pour savoir. Mais par contre, si je tombe sur un client qui est curieux et qui est assez ouverte et qui dit, écoute, fais-moi ce que tu veux, je vais quand même lui demander, pour qu'il ne meure pas dans le restaurant, quelles sont les allergies qui peuvent lui engendrer un œdème de cuisine. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça. Voilà, en gros, donc la restauration, c'est très intéressant. Ça nous permet de connaître un peu les gens. Et puis, c'est aussi une grande joie de les voir partir en découvrant quelque chose de nouvel, vous voyez. C'est pour ça que ce livre-là, j'ai beaucoup apprécié parce que Yuzu a pu remarquer des comportements hein, de nourriture des gens, des Français, dans le contexte chinois et vice-versa. Et je pense que c'est intéressant. Bon, nous, on a encore beaucoup à faire. Hein. Je pense que je vais essayer on va essayer de renouveler un peu plus souvent des interventions avec des chefs ou bien pour parler un peu.
L'échange est tout à fait riche, je trouve.
Parce que... Je trouve, oui. C'est dommage qu'en France, la plupart des restaurants chinois ici, c'est souvent sont pas des chefs formés, professionnels. C'est souvent un moyen de survie et survivre. Donc, c'est vraiment très dommage, je trouve.
Bon, ce n'est pas leur faute non plus parce qu'en fait, ils ont fui un contexte politiquement assez chaotique pour venir dans ce pays qui est la France, hein, pays d'accueil. Et puis, pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'ils vendent un peu de l'exotisme. Hein. Donc, c'est quelque part normal. Donc, on ne peut pas trop le reprocher. La seule chose, c'est que si quelqu'un arrive à s'en sortir en restauration, j'aimerais bien qu'il fasse un effort pour parler, de promouvoir un peu notre culture gastronomique, parce qu'elle est vaste. On a encore beaucoup à faire. C'est vrai que nous avons le projet, à la fin de notre exercice, avant de prendre, soi-disant, la retraite, parce que la retraite n'existe pas, vous le savez pertinemment. C'est un leurre. Donc, avant de se retirer un peu... Mais sans se retirer totalement, on va créer une cellule de formation conviviale pour les gens qui s'intéressent. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de secret? On ne garde pas de secret parce qu'on va les donner. C'est l'humanité qui va en profiter. Donc moi, je pense que c'est ça l'idée. Et puis nous, bien qu'on est un peu glagla, admettons qu'on avance dans l'âge, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui vont venir nous voir pour poser quelques questions. On se sent encore utile, voilà, c'est ça qui est important. On ne va pas se cloîtrer pour aller siroter un whisky, je ne sais pas, à Baléares, tranquillement, comme ça, hypocritement. Non, ce n'est pas mon truc. Voilà, je pense que si on peut donner, on donne, et puis voilà.
Mais je pense, oui, aussi, je pense qu'il y a aussi une autre question, c'est lié au niveau d'études, au niveau de culture. Donc, si on a fait Bac plus 5, on ne veut plus rester toujours dans le bas de gamme, on veut aussi remonter, créer, innover et faire dans le haut de gamme comme les Français. Donc, je pense que peut-être dans une ou deux générations, les nouveaux restaurants... Il y a maintenant, j'ai remarqué à Paris, il y a aussi des gens, des jeunes Chinois immigrés qui sont venus s'installer en France et ils ont des nouvelles idées et ils créer par exemple des recettes régionales et des nouilles faites à la main sur place ou le label qualité Asie. Donc je pense que ce sont des bonnes initiatives.
Alors si vous avez besoin de quelques dédicaces, l'auteur est là. Moi je vais m'éclipser parce qu'il y a le resto qui m'attend.